travaille actuellement dans le centre média de le mouvement de solidarité internationale. C'est mon tâche de recevoir des rapports sur le terrain des militants palestiniens et des militants internationaux qui travaillent sur différentes tâches, différentes actions directes. Par exemple, j'étais ici au bureau quand j'ai reçu un téléphone de quelqu'un à Gaza qui vient de fuir une maison qui était détruite par trois bandes armées de tanks israéliennes. Dans d'autres places, Nablus, il y a récemment beaucoup des opérations de militaires israéliens et moi, je suis ici pour recevoir encore les appels du monde qui travaille sur le terrain là-bas. Aussi, ici à Bethlehem, c'était symbolique, significatif pendant le temps de Noël parce que c'est la place de la naissance d'un militant juif anti-pauvreté, Jésus. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. C'est un mélange de religion et la politique parce qu'il y a toujours des manifestations pendant Noël pour montrer l'opposition contre l'occupation israélienne. Alors, il y a eu un grand défilé ici à Bethlehem et aussi une manifestation la veille de Noël juste à côté de l'église où Jésus était supposé être né, le site de sa naissance, avec des Israéliens et aussi des Palestiniens. Alors, le temps ici, c'est de partager et participer avec la résistance de formes différentes. Mais moi-même, je reste toujours près de Bethlehem, mais je pense dans les prochains jours, je vais déménager dans une autre partie de Palestine.
Ici, les médias ont beaucoup parlé de Yasser Arafat qui n'a pas été capable de se rendre à l'église. Ça, c'est la principale nouvelle, je pense, le jour après Noël. Qu'est-ce que les gens ont dit là-bas et qu'est-ce que tu penses de l'attention qui est portée chaque année comme ça à Yasser Arafat?
Oui, c'est la deuxième année à la fois qu'il ne peut pas entrer à Bethlehem pour participer dans les célébrations de Noël. Mais il faut dire que ça, c'est normal pour tous les Palestiniens. Parce que c'est clair que Arafat ne peut pas venir, mais le Palestine s'est maintenant divisé dans toutes sortes de différents cantons qui est contrôlé par des checkpoints israéliens. Par exemple, pour aller à Bethlehem à Ramallah, juste pour donner un exemple, Arafat, il est à Ramallah. Ça prend, si on prend point A à point B, ça prend juste peut-être 2 heures. Mais avec tous les checkpoints israéliens, tout ça, ça prend 10 à 12 heures des fois. Alors, ce qui se passait avec Arafat, ça montre la contrôle par le colonisateur, les Israéliens, sur les Palestiniens. Alors, c'est ça. Le monde est identifié avec ça.
Mais maintenant, de ce que tu dis dans la situation, toi, tu es au bureau du International Solidarity Movement, c'est ça?
C'est ça.
Ouais. Et est-ce que ça, c'est dans les territoires occupés? Est-ce que tu as repassé la frontière?
Oui, c'est sur les territoires occupés. Je suis sur le territoire occupé depuis, mais ça fait maintenant une semaine. Et même ici, par exemple, à Bethlehem, ils ont ouvert le couvre de feu. Parce qu'il y a un couvre de feu ici à Bethlehem, Beth-Sahour, pendant un mois. Mais à cause de Noël, à cause de les critiques internationales, ils ont décidé d'enlever le couvre de feu juste pour 2 jours. Et maintenant, c'est encore un couvre de feu ici. Hier, pour réimposer le couvre de feu, il y a du monde ici, des jeunes qui utilisaient les pierres pour attaquer les tanks, tout ça. Alors ça, c'est normal ici. Mais oui, je suis toujours sur le territoire occupé et pour être sur le territoire occupé pour les Palestiniens, c'est toujours chaque geste, c'est un geste de résistance.
Mais alors si tu as dit les gens, ils ont continué pour lancer des pierres hier, alors la résistance là-bas, vraiment dans la rue, elle est quotidienne, les gens sont toujours en train de mener des actions, même durant le temps des fêtes?
Oui, comme j'ai dit, même une célébration de Noël a été une manif contre l'occupation, J'ai vu, par exemple, j'ai participé dans un manifestie où il y a du monde qui chante les chansons de Noël, qui donne la bouffe au monde, les sucres, tout ça au monde. Mais aussi, il y a des banderoles, des chansons contre l'occupation, des banderoles qui a dit nous sommes contre le mur d'apartheid, le mur que Israël est en train de construire ici. Alors, c'est un mélange des deux. Comme j'ai dit, chaque geste, même les gestes simples comme célébrer Noël, c'est aussi un geste de résistance ici. Et j'ai vu ça clairement pendant Noël ici à Bethléem.
Explique un peu comment, quel est l'effet là, du International Solidarity Movement. Les gens appellent là-bas pour demander que des gens les accompagnent ou comment est-ce que ça marche? Quelle est la...
Des fois, ça marche comme ça. C'est clair qu'une présence des internationales peut empêcher un peu la démolition d'une maison, etc. Ou la présence des internationales peut aider le monde à passer le checkpoint ou au moins restreindre un peu le harcèlement. Toujours, c'est un mouvement dirigé par les Palestiniennes et les actions sont initiées par les Palestiniennes aussi. Alors, juste pour donner deux exemples, il y a un groupe des réfugiés à Gaza, dans une ville qui s'appelle Rafah, qui veut apporter de bouffe et d'équipements médicaux à un village qui est entouré par des colonies. Alors, ils ont fait l'appel pour avoir des internationales là-bas pendant qu'ils essaient de faire ça et passer les checkpoints israéliens où ils utilisent les balles contre les personnes qui essaient de passer. Pour donner, alors ça, c'est un exemple à Gaza, à Rafah. Un autre exemple, c'est le nord de Cisjordanie, à Qaqilia, où les Israéliens sont en train de construire le mur d'apartheid, comme j'ai dit. Il y a un groupe là-bas, des comités de défense de la terre, ça c'est leur nom, qui a fait un appel aux internationales pour être là quand ils font une marche pour opposer ce mur. Alors ça, c'est quelques exemples de ce qui se passe ici. Le mouvement de solidarité internationale, c'est ici pour aider les Palestiniennes, pas pour déterminer leur lutte, mais quand ils déterminent une piste, une action, quelque chose à faire, il y a du monde ici qui aide avec ça, mais aussi d'essayer d'avoir certaines attentions, certains effets médiatiques, parce que une affaire importante, c'est de démystifier c'est quoi une occupation, démystifier tout ça. Parce que le monde pense occupation israélienne, ok, c'est à cause de terrorisme, tout ça. Il ne comprend pas que c'est une attaque contre la dignité d'un peuple. C'est ça. Comme l'occupation de n'importe quel pays, n'importe quelle terre, c'est une attaque contre la dignité d'une personne. C'est exactement ça ici. C'est une réalité coloniale. Alors ça, c'est l'autre aspect de travail, c'est d'essayer de comprendre cette réalité et d'essayer de passer le mot, comme on dit, à toutes sortes de différents pays, etc.
Souvent, les gens ici, ils vont dire, mais on a tout vu dans les médias, c'est une situation qui continue, c'est toujours la même chose, c'est toujours Palestiniens contre Juifs, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'une personne normale peut faire, pas grand-chose, parce que c'est loin, c'est l'armée israélienne, même si les Palestiniens, ils ont raison, et les Israéliens ont tort, les Israéliens sont pillés par les Américains. Qu'est-ce que tu penses de cette analyse-là?
Mais c'est une grande question, mais toujours quand on lutte pour la justice, ça aide la situation. Alors, c'est pas nécessairement une question de venir ici toujours et lutter avec les Palestiniens, pas du tout. C'est une question de montrer solidarité, de lutter pour la justice n'importe où, faire le lien. Mais c'est pas toujours la même chose. C'est pas juste les Israéliens qui n'aiment pas les Palestiniens qui n'aiment pas les Israéliens. Ça, c'est trop simple. C'est une réalité coloniale où il y a un pouvoir, les Israéliens, qui essaient de contrôler une terre. OK? Les colonies et l'occupation, ça n'a rien à voir avec la sécurité des Israéliens. Il y a beaucoup du monde en Israël qui dit clairement que l'occupation et les colonies, ça augmente l'insécurité pour les personnes. Alors, voilà, il faut comprendre la situation, il faut faire le lien avec des autres situations comme comme l'occupation des terres autochtones au Québec et au Canada, etc., etc. Mais de dire ça, c'est juste normal, on peut jamais trouver une solution, je n'accepte pas ça. Et il faut dire aussi que pendant la lutte contre l'apartheid, il y a du monde qui a dit ça aussi. Et même s'il y a des problèmes en Afrique du Sud, finalement, ils ont gagné.
Jaggi, depuis que tu es arrivé là-bas, je ne sais pas si ta vision, elle a changé ou elle s'est approfondie, mais sur la question de l'apartheid, comme tu dis, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu comment tu vois la situation. Pourquoi est-ce que tu parles de apartheid?
Mais l'apartheid, le mot apartheid, ça veut dire séparation, mais séparation sur des critères racistes. Et ce que Israël est en train de faire, c'est une séparation, une création de petits cantons où les Palestiniens peuvent vivre, mais à peine, ils peuvent vivre à peine. On a même une chose, pas juste symbolique d'apartheid, mais une vraie apartheid, parce qu'ils sont en train de construire un mur de 8 mètres qui va annexer 10% du territoire palestinien, pour créer, comme j'ai dit, des petits cantons, des petits ghettos des personnes pour mieux contrôler ces personnes. Ça, c'est une définition classique de c'est quoi apartheid. Les Blancs en Afrique du Sud ont créé des cantons pour contrôler les Bantoustans, pour contrôler les Noirs. Et ici, on a la même situation. Et on utilise toutes sortes d'excuses. Ils sont des terroristes, ils sont des personnes qui nous n'aiment pas. Mais en réalité, c'est une façon de lentement, contrôler toute la terre. C'est ça pourquoi j'ai utilisé le mot apartheid. Et c'est ça la raison pourquoi le mouvement de solidarité internationale fait référence à le mur d'apartheid. Cette mur, ils sont en train de construire pour contrôler le territoire palestinien.
Mais est-ce que depuis que tu es arrivé là-bas et tu vois la situation, est-ce que tu penses que ça t'a radicalisé un peu plus?
Pas nécessairement. Ça approfondit ma compréhension de qu'est-ce qui se passe. On peut parler d'occupation, mais il faut voir une situation sur le terrain pour voir c'est quoi ça. Parce que c'est des attaques, c'est des arrestations arbitraires, c'est des checkpoints, c'est tout ça, couvre de feu. Mais en même temps, le monde ici essaie de vivre, essaie de faire des choses qui sont le parti d'une vie, comme célébrer Noël ou avoir des parties ou juste d'avoir une société normale. Alors, c'est intéressant de voir la résistance en même temps que le monde essaie de vivre comme tout le monde autour du monde. Et ça, c'est une partie de la résistance, d'essayer de faire ça. Et moi, j'ai apprécié ça beaucoup depuis que je reste ici.
Oui, mais parce que c'est ça, à Montréal, il y a plusieurs...
Une autre chose, il faut dire, c'est aussi comme une personne qui vient ici juste pour quelques semaines, je peux pas dire que je comprends la réalité. C'est vraiment la raison que je suis ici, c'est pour approfondir les luttes dans lesquelles je m'implique à Montréal. Surtout une campagne qui s'appelle « Personne n'est illégale ». Le lien avec la lutte ici, c'est de voir la réalité des réfugiés, de voir les réalités de disposition et de voir les racines de raisons pourquoi le monde essaie de faire l'immigration. Alors ça, c'est pour moi une grande tâche ici. Pas pour donner l'impression que voilà, je comprends la réalité. Pour comprendre la réalité, il faut vivre ici longtemps.
Et justement, est-ce qu'il y a encore beaucoup de Palestiniens qui cherchent à quitter les territoires occupés pour aller ailleurs dans le monde?
Oui, mais pas parce que c'est leur choix principal, c'est parce qu'il n'y a aucune opportunité économique ici, rien. Avant la deuxième intifada, il y a un certain nombre des jeunes Palestiniens qui peuvent travailler en Israël dans le domaine de construction ou dans les restaurants, etc. C'est un autre exemple de l'apartheid, parce que les Palestiniens rendent service aux Israéliens comme une source de cheap labor. Mais maintenant, il n'y a pas cette occasion. Alors vraiment, il y a une dynamique économique qui force les Palestiniens de quitter. Mais il y a du monde qui refuse de quitter, même s'ils savent très bien qu'ils peuvent gagner un peu d'argent au pays arabe ou en Europe ou même en Amérique du Nord. Ils refusent parce que ça, c'est aussi la stratégie des Israéliens. Mais par exemple, juste à Bethléem, l'économie ici s'est basée beaucoup sur le tourisme. Il n'y a pas de touristes pendant Noël. Ça fait la dévastation de l'économie ici.
OK. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter qui sont dans les événements qui vont venir ou les événements, les nouvelles dernières de ce qui se passe là-bas?
Mais une chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a une stratégie claire de l'armée israélienne derrière Sharon, et c'est d'utiliser la guerre contre l'Irak pour une occasion de vraiment attaquer les Palestiniens. Les journaux ici parlent, les journaux israéliens parlent ouvertement de cette stratégie. C'est que les États-Unis vont s'occuper de l'Irak pendant que Israël domine la situation ici. Il y a même des articles très ouverts qui parlent de faire une occupation militaire long terme, c'est-à-dire occuper et faire des écoles, les hôpitaux. C'est les Israéliens qui vont contrôler tout ça. Un autre régime d'occupation qu'on a vu pendant les années 70 et 80. Alors, il faut être conscient de ça, que la guerre d'Irak, ça va donner une excuse pour vraiment faire une attaque de force sur Palestine, et ça va arriver peut-être dans les prochaines semaines. Il y a toutes sortes de raisons géopolitiques qui donne la raison aux États-Unis de donner beaucoup d'argent aux Israël. C'est clair que Israël peut pas occuper Palestine sans l'appui le soutien des États-Unis, le soutien militaire, le soutien économique. Mais je veux dire que Israël va utiliser l'excuse de la guerre contre Irak pour attaquer les Palestiniens. Ils sont vraiment, ça c'est une chose qui peut vraiment provoquer un transfert en masse des Palestiniens qui va fuir leur territoire, et ça peut arriver, comme j'ai dit, dans les prochaines semaines ou prochains mois.